Merci à tous les trois. Vous nous avez vraiment introduit dans votre travail préparatoire au projet pour l'abbaye de Beaulieu, et c'est ça qui était, je pense, la marque de votre exposé à tous, aussi bien la recherche historique, la recherche sur le patrimoine, et puis les conditions dans lesquelles vous travaillez pour élaborer un projet. Je pense que c'est ça qu'on a bien saisi. Et vous nous avez quand même beaucoup donné l'eau à la bouche, je pense en particulier en nous faisant voir tant d'éléments de cette collection constituée par Madame Bonnefoy et Pierre Brache. Je pense qu'on n'en a vu qu'un bout, mais peu d'entre nous on en avait vu autant que ce que vous avez montré aujourd'hui. Voilà, il reste évidemment des choses qui nous laissent sur la fin. Je pense que l'histoire cistercienne, vous n'en êtes pas quitte, les cisterciens du Rouergue, on va vous solliciter pour éclairer aussi cette dimension ancienne, qui n'a pas été beaucoup évoquée aujourd'hui. Et il y a beaucoup à dire sûrement, mais on ne peut pas en une heure dire tout. Mais je pense qu'il y a une chose que je voudrais permettre avant que des interventions et des questions de la salle complètent notre séance, c'est donner la parole au président de l'association culturelle, qui est un élément essentiel de l'histoire et de l'actualité de l'abbaye de Beaulieu. Alors, comme son président a bien voulu venir, Daniel Cadillac, je pense qu'il pourrait nous en dire un mot avant que vous preniez, vous, dans la salle, la parole.
Donc, comme l'a dit Benoît, cette association culturelle a été créée en 71 et donc a servi de support juridique à ce qui a été appelé le premier centre d'art contemporain de Midi-Pyrénées. Donc, ce qui s'est passé, c'est l'idée qui avait germé donc, pour Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, c'était d'essayer d'externaliser en région les travaux qu'on pouvait observer sans difficulté dans la région parisienne. Et donc l'abbaye allait servir à ce support. Donc il y avait collection. S'il y avait collection, il y avait peintre. Hein, et il y avait surtout peintre et sculpteur. Les sculpteurs dans cette collection sont assez rares. Hein, donc on a parlé de Brancusi, il y a également Viseux. Donc cette collection a amené donc la création de l'association, comme je viens de le dire. Et il s'agit donc des artistes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et la post-guerre. Quoi. Quels sont les points communs de ces peintres? J'ai essayé d'analyser cet aspect des choses. C'est d'abord un travail en solitaire. C'était des gens qui... Ou ce sont des gens, ils sont encore certains en vie, qui travaillaient dans la discrétion, qui travaillaient avec des matériaux très modestes, comme les encres, les mines de plomb, les aquarelles, les papiers. Donc un art solitaire, on peut le définir comme ça. D'ailleurs, ces gens-là se sont retrouvés souvent dans la résistance. Donc on peut trouver une analogie dans l'état d'esprit entre cet aspect secret, discret, et un travail dans la résistance. Donc tout ce travail s'est fait en fait, j'ai essayé aussi d'analyser cela, hein. On peut le contredire bien sûr, puisque je me retrouve dans une situation un peu subjective dans mon discours. C'est un travail que je constate personnellement sur une variation entre le blanc et le noir. En fait, on dit le blanc et le noir quand on regarde le tableau, mais en réalité c'est un travail sur le noir, puisque la toile en fait au départ est blanche, ou le papier. Et tout ce travail m'a donné aussi, m'a rappelé la phrase, la réflexion de Vassili Kanevski, qui est « Pourquoi faire ce travail ?» C'est la fameuse nécessité intérieure, telle que le définissait Vassili Kanevski. Nécessité intérieure, en même temps, c'est une jolie boucle, hein, puisqu'une fois qu'on a dit nécessité et intérieure, on n'a pas trop avancé dans la définition, et on laisse beaucoup de place à l'imaginaire des gens. Je le définis également, comme beaucoup de monde, donc comme un art informel. Pourquoi cet art informel? Quelle est la question qui se pose? Ces gens-là se sont dit, ce que nous avons vécu peut-il être représenté? Ce que nous avons vécu, sous-entendu, durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, vous pouvez constater un passage important entre donc, des travaux comme Guernica et donc le travail sur tâche noire tel que l'ont fait tous ces artistes. Alors donc c'était toute une variation sur cette tâche noire, hein. C'est une projection. On ne peut pas représenter ce qu'on a vécu, Donc on va jeter une tache noire sur la toile. Et tous ces artistes, pour nombre d'entre eux, vont travailler sur une variation autour de cette tache noire. Je pense en particulier à Michaud, Viseux, Benrat, Serpent, Soulages, Schneider, j'en ai cité un certain nombre, Pollock, Artaud. D'où le mot donc, d'art informel. On verra donc tout le chemin qui a été parcouru en une quinzaine, vingtaine d'années, entre ce qui a été baptisé l'art dégénéré dans les conditions que vous connaissez tous, hein, pour arriver donc à cet art informel. Donc on peut, bien sûr, avec l'analyse des années 30, considérer que cet art informel est un art dégénéré, mais vous voyez qu'il y a entre-temps ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire ce que j'ai vécu est irreprésentable, donc je le représente en jetant une tache sur une toile. Voilà, donc pour revenir à Pierre Brache et à Geneviève, c'est donc l'histoire de deux collectionneurs telle qu'elle vous a été expliquée. Donc, quels étaient ces artistes, quels étaient leurs choix? On remarquera, je commencerai par une absence, tant que j'y pense, c'est les peintres américains, ils sont largement absents de cette peinture, de cette collection. Ce qui n'empêche que beaucoup sont étrangers, donc ils viennent des pays de l'Est. Donc, je l'ai déjà dit, beaucoup sont engagés dans la résistance. Ils vont souvent y laisser leur santé. Et ils peindront donc à la suite. Ils ont fait énormément de contours et de détours. Et ils ont été soit en Angleterre, soit dans les groupes de résistance en Espagne. La plupart d'entre eux sont dans des situations extrêmement précaires. Et en face de ces gens-là se trouvent donc les Brache eux-mêmes qui n'ont pas une fortune à leur disposition, telle qu'on vous l'a expliqué sur leur origine. Donc beaucoup d'œuvres sont achetées à tempérament, ce qui arrange tout le monde, puisque ces peintres, ce qui les intéresse, c'est de survivre au jour le jour. Et les Brache, ça les arrange bien de notre côté, puisque ça leur permet, n'ayant pas de fortune, de payer mois après mois les œuvres qu'ils retenaient. Alors ce système aussi a eu un autre avantage, c'est de renforcer bien sûr les amitiés entre eux, entre ces peintres et les Brache, d'où de nombreux petits formats, comme on vous l'a dit également, dans cette collection, qui étaient en fait très souvent des cadeaux d'amitié. C'était puisqu'on était, en l'occurrence, on était carrément dans la survie. Je vous renvoie, pour illustrer cette idée, au livre de Freud II qui s'intitule La Gana. D'où l'expression de Geneviève Bonnefoy, à laquelle répétait très souvent, je veux arracher ses œuvres aux griffes des spéculateurs. Ces spéculateurs, en l'occurrence, étaient donc des galeristes qui ne travaillaient pas forcément pour les artistes, mais travaillaient comme de bons vignerons à stocker, au lieu de stocker du vin, ils stockaient des tableaux. Vous remarquerez aussi une analyse qu'il faudrait beaucoup plus approfondir qu'en une seule phrase, c'est que ces artistes sont très souvent en avance sur une situation politique ou sociale. Je pense en particulier à la bascule qu'il y a eu entre l'impressionnisme et l'expressionnisme qui a annoncé la guerre de 14-18. Vous pourrez faire les mêmes rapprochements avec, par exemple, les surréalistes. Mais bon, c'est pas le lieu ici d'évoquer cet aspect des choses. Donc j'ai repéré un certain nombre d'étapes successives. Donc on l'a dit, de 68-71, restauration du monument, 71, ouverture du centre d'art. Une première étape, c'est les expositions à caractère international. Ce sont donc les masques dont vous avez pu voir un certain nombre d'œuvres. C'est aussi une période faste d'un point de vue des finances qui ont permis donc également de trouver de la danse et de la musique contemporaine à Beaulieu, ce qui ne s'est pas fait depuis très longtemps. Ça avait aussi, je me souviens, puisque je ne parlerai même pas de mes cheveux blancs, mais je parlerai du temps qui est passé, pour dire que j'ai eu l'occasion donc de ressentir à ce moment-là un côté exposition parisienne à la campagne, si vous voulez. Et c'était un petit peu ça, quoi. Donc, ce couple a dit, bon, ce qui se fait à Paris, on va aller le faire à la campagne. D'où de nombreux artistes qui sont venus dans le coin, dans la région. Je pense à Michaud, à Serpent, à Karskaya, à son fils Karski. Donc, certains se sont installés ici. Ensuite, il y a eu un deuxième moment c'était la découverte d'artistes en région, dont des artistes perdus dans la campagne, exactement un peu comme étaient perdus certains artistes parisiens qui vivaient dans les sous-sols des immeubles haussmanniens. Et c'était un des temps forts pour Geneviève Bonnefoy, justement, c'était d'aller visiter ces ateliers que personne ne découvrait pour des artistes complètement délaissés. Donc, bien sûr, l'association s'étoffe au contact de tous ces artistes et de leurs amis. Il y a un troisième temps qui s'est profilé, c'est cet art informel, donc, qui de contemporain est passé à moderne, le temps passant, les œuvres faites en 1950 deviennent de l'art moderne en 2000. Donc, on voit là vraiment une affirmation du caractère de ce couple, c'est-à-dire une dissociation entre les orientations des grandes galeries, c'est-à-dire vers la nouvelle figuration, vers la vidéo, vers les installations, alors qu'eux sont restés à Beaulieu fidèles au mouvement des origines. Et enfin, il y a eu donc encore un quatrième mouvement, donc c'est les artistes en région qui vont donner donc des expositions sous le titre qui a été précisé tout à l'heure, c'est-à-dire « Empreinte d'un territoire et découverte ». Je préfère utiliser le terme de territoire que peintre locaux. Ils font donc à plusieurs reprises l'objet de donations à la CNMHS, devenue le CMN. Il s'est trouvé qu'une de ces donations a été refusée par le CMN, et donc ça a amené à l'association à opérer une nouvelle orientation pour le recueil de ses œuvres, en attendant donc l'arrivée du futur musée. Actuellement, l'association gère, enfin protège, conserve, comme on va utiliser le terme que vous voulez, une quarantaine de ses œuvres. Mais entre-temps, ce phénomène a entraîné un phénomène de boule de neige, si vous voulez. C'est-à-dire, donc, comme il y avait ces 40 œuvres qui étaient restées là pour aller dans un futur musée, des artistes ont voulu, au fil des expositions créées par l'association, des artistes ont voulu faire des dons à l'association. Et là, donc, on a, entre les dons faits à l'association et les acquisitions, plus de 100 œuvres, 120 œuvres en ce moment, si on ajoute les œuvres de l'art brut. Voilà, donc reste la suite. La suite, il va falloir l'imaginer. On y a déjà beaucoup travaillé à travers la convention qui lie l'association et le CMN, où Benoît bien est là pour me contredire, où le musée serait dans un rôle de conservateur et d'exposition à caractère international, pendant que l'association serait dans un travail de recherche de ces artistes ignorés et délaissés qui seraient du territoire ou même hors territoire. Voilà. Voilà, alors donc en conclusion, j'essaie d'être concis, en conclusion, des précieuses découvertes qu'on a pu faire donc, au sein de l'association. Je pense sur le territoire, je pense à l'artiste Cayolle, qui 2 ans après l'exposition au dortoir des Convers a pu exposer ce printemps au musée Puech, ce qui quand même est assez extraordinaire pour un artiste de son vivant. Donc des précieuses découvertes aussi en international, puisqu'on a eu beaucoup de contacts avec l'Allemagne. On a eu une exposition, je parle en particulier à l'exposition de 2014 avec Carlotto Goetz. On a eu également une exposition sur les artistes et migrations, c'est donc d'actualité. Nous poursuivons donc avec le CMN le même but, c'est-à-dire ce rayonnement donc de l'association, l'association en passant par ses recherches et le CMN en passant par d'autres recours, moyens que n'aurait pas l'association. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci. C'était un bel exemple.
Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais ceux qui le veulent peuvent intervenir. Vous êtes pressé de partir.
Alors, évidemment. Pour parler d'un micro, oui. Jean-Pierre Coll, je suis le prédécesseur de Benoît Grécourt. Alors, pour ma part, évidemment, j'ai vécu une certaine cohabitation durant 15 ans avec Geneviève Bonnefoy. Cette cohabitation n'était pas toujours commode, mais en définitive, il y avait une relation consensuelle qui permettait au projet d'aboutir. Et ça, c'est ce qui est important lorsque l'on veut animer un monument comme celui qui maintenant va prendre une ampleur auquel il faut rendre hommage à cet égard au centre des monuments nationaux. Et j'ajouterai cette petite anecdote, car vous avez pu constater grâce à cette présentation qui vient d'être faite combien ce monument va dans son ampleur présenter la collection quasiment dans son intégralité. Mais Geneviève Bonnefoy estimait que ce monument qu'elle habitait n'était pas approprié à cette présentation. Aussi souhaitait-elle qu'on lui construisit un musée. Alors j'ai assisté pour ma part aux diverses tractations qui, évidemment, n'aboutissaient pas parce que tant le CMN que la Commission nationale des sites estimaient que l'implantation d'un musée ne s'imposait pas et que le moment venu, bien entendu, le monument permettrait de présenter ce qui vient de vous être présenté.
Je donne la parole à Benoît Grécourt peut-être pour le mot de la fin, parce qu'on est près du temps.
Déjà, il y a deux questions auxquelles je m'attendais, mais apparemment, la chaleur dans la salle a fait que les questions étaient moins importantes. Il y a deux questions qui, bien sûr, je pense, vous brûlent la langue. D'une part, quand tout cela sera accompli? Et la seconde question, c'est combien ça va coûter? Si, tout le monde y pense, hein, je vous assure. Donc, la première question, donc le CMN, avec ses différents interlocuteurs, hein, notamment les deux associations dont vous avez eu des interlocuteurs aujourd'hui, donc Cistercien-Rouergue et l'association culturelle, le CMN avec eux est au travail depuis ce début d'année. D'une part sur le chantier des collections, puisque il n'y a pas que le chantier d'aménagement, il y a aussi la gestion de cette collection, la restauration de certaines œuvres, l'encadrement, la confection de cadres climatiques pour certaines œuvres fragiles. Enfin, tout ça est un travail considérable qui va durer plus de 2 ans. Et ensuite, donc, les travaux proprement dit, qui vont être menés à l'abbaye, eh bien, vont commencer concrètement en début d'année prochaine, donc sans doute en janvier ou février, et doivent être achevé pour le mois de mai 2021. Donc, on travaille sur une temporalité qui est assez courte. Bien entendu, la phase de diagnostic et d'avant-projet est très avancée, hein, vous l'imaginez. Et donc, les travaux seront finis pour que tout puisse être inauguré au mois de mai 2021. Voilà. Ensuite, sur la question financière, puisque c'est en plus si je n'en parle pas après et qu'on ne me pose pas la question, on va me reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc, le Centre des Monuments Nationaux a prévu un budget de 5 millions d'euros pour l'intégralité des aménagements de l'abbaye. Ça ne comprend pas le chantier des collections. Le chantier des collections est en dehors. Ça, c'est géré. Alors, il faut quand même préciser que malgré les conditions de conservation assez aléatoires actuelles à l'abbaye ou dans l'appartement de Geneviève à Paris, etc., il y a très peu d'œuvres qui sont vraiment endommagées ou qui ont besoin d'une grosse restauration. La plupart ont besoin juste d'un nettoyage, d'un réencadrement, mais il n'y a pas de gros chantier à faire là-dessus. Donc ça va être géré par le budget annuel du Centre des Monuments Nationaux qui est consacré à l'entretien de sa collection. L'enveloppe donc de 5 millions d'euros, elle comprend uniquement les travaux d'aménagement et la scénographie. À cette enveloppe de 5 millions d'euros, donc on espère, mais c'est en bonne voie, théoriquement. On espère obtenir 500 000 euros de la région dans le cadre du label Grand Site d'Occitanie. Puisque vous le savez sans doute, il y a un grand site qui a été créé, je crois que c'était en mai ou juin 2018. Voilà. Donc la région donc, met en place dans ce cadre un dispositif qui permet une assistance aux projets culturels qui sont, qui accentuent le maillage territorial et qui aussi qui accentuent leur attractivité. Et donc là, c'est Beaulieu entre complètement dans ce cas, puisque nous accueillons en moyenne 8 à 9 000 visiteurs par an. Alors, bien que les chiffres cette année avec les deux expositions nous laissent présumer que nous ferons un score plus haut cette année, mais de ce score moyen de 8 à 9 000, nous envisageons de passer à 35 000 visiteurs par an sur l'abbaye de Beaulieu. Ce sera un site qui sera ouvert toute l'année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on ouvre en avril et on ferme fin octobre. Voilà, pour les données. Donc ces 500 000 euros viendront en complément de ce budget, nous permettront de peaufiner la scénographie, etc. J'ajoute aussi que, bien sûr, le CMN effectue une importante recherche de mécénat et de financement privé. Le CMN est une grosse machine, on a l'habitude de travailler sur cela, donc en plus sur un dossier aussi inédit que l'abbaye de Beaulieu avec une collection aussi importante, nous pensons ne pas avoir de mal à être suivi par des mécènes privés, du mécénat d'entreprise. Par ailleurs, pour le volet jardin, sachez que la création du jardin de roses ne coûtera quasiment rien si ce n'est le terrassement. Puisque ce jardin va s'effectuer dans le cadre d'un mécénat de compétences et un mécénat en nature avec la société André-Ève Roses Anciennes et Nouvelles, qui est la société qui avait été créée par André-Ève et qui va nous fournir l'essentiel des végétaux. Voilà.
Oui, et si vous voulez garder un petit souvenir. Et nous avons des plaquettes cisterciennes Rouergue sur l'histoire plus ancienne des abbayes cisterciennes du Rouergue, dont Beaulieu.